Les résultats du premier baromètre 2025 d'Expat Communication viennent de paraître. Intitulé « La scolarité des enfants internationaux », cette enquête, menée en partenariat avec Hermitage Group, explore les coulisses de la scolarisation des enfants dans un environnement international en donnant la parole aux parents. Alix Carnot est directrice associée chez Expat Communication. Explication.
Alors, les parents, en fait, ont deux choix à faire quand ils scolarisent leurs enfants à l'étranger. Le premier choix, avant même de choisir l'école en elle-même, ils vont choisir le type de scolarité. C'est-à-dire, est-ce que c'est l'école locale ou est-ce que c'est, pour les Français, le système français ou est-ce que c'est le système international non français et notamment souvent américain. Ça, c'est un premier niveau de réflexion. Ensuite, ils vont choisir l'école. Alors, quand ils choisissent le type de scolarité, quelles sont les raisons qui les font pencher pour l'un ou pour l'autre? D'abord, j'ai une bonne nouvelle, parce qu'on a vérifié si jamais ils avaient vraiment leur premier choix, ou si jamais ils se retrouvaient dans une école parce qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et il n'y a que 2% des parents, ce qui est finalement extrêmement peu, qui nous disent qu'ils choisissent le système d'école parce qu'ils sont contraints par l'offre, à creuser, parce que ça me semble très peu. Après, ils vont choisir le système en fonction de la langue d'enseignement, des qualités académiques et de la préparation aux études supérieures. Et en fait, les raisons vont dépendre du système qu'ils ont choisi. Si on regarde, par exemple, le système français, il est d'abord choisi pour sa langue, puis pour ses qualités académiques et ensuite pour la préparation aux études supérieures. Et enfin, pour la portabilité de l'enseignement, c'est-à-dire le fait, vous savez ce que disent souvent les lycées français, vous quittez Madrid et vous êtes à la page 25 du manuel et vous arrivez 15 jours plus tard à New York et vous êtes à la page 27 ou 28 du manuel. Donc, c'est cette continuité qui est très pratique pour les parents dans le système français. Dans le système local, ça va être davantage pour l'intégration dans la culture locale et pour la qualité académique aussi. Pour le système international, c'est à nouveau la langue d'enseignement et la portabilité du système, même si elle est moins bonne. Voilà, donc ça, c'est comment est-ce qu'on choisit le type de système. Après, pour choisir une école, alors là, on va regarder d'abord sa réputation académique, on va regarder la proximité, bien sûr, et puis les coûts. Et ça, les coûts, c'est valable, quels que soient les systèmes très chers ou les systèmes les moins chers, j'ai envie de dire peut-être, chacun voit en fonction de ses revenus aussi l'école qu'il peut financer. Et comment est-ce qu'il recherche? Et ça, ça a été une surprise. C'est d'abord sur Internet, ensuite par recommandation et enfin par les réseaux sociaux. Mais vraiment une grande prépondérance d'Internet dans le choix d'école, notamment pour ceux qui sont expatriés. Parce qu'évidemment, les réponses que je vous donne, elles vont varier en fonction du statut ou du type d'expatriation. C'est logique que si jamais vous êtes expatrié par une entreprise, et donc a priori l'entreprise va financer l'école, mais en revanche, vous savez que vous êtes là pour 2 ou 3 ans et avec des durées de préparation de votre déménagement qui sont hyper courtes. Dans ce cas-là, c'est sûr que votre choix, il va se faire sur Internet parce que là, les familles qui sont expatriées d'entreprises, elles nous disent en moyenne, il y a moins de 3 mois de recherche d'école. Ça doit aller super vite parce que les familles qui partent avec une entreprise commencent par choisir l'école et à partir de ça, la vie du reste de la famille va s'organiser, notamment le logement. Alors que les familles qui sont à l'étranger, mais parce que c'est des familles binationales ou parce qu'elles habitent sur place, elles déjà vont aller beaucoup plus souvent à l'école locale que les enfants d'expat. Et puis surtout, elles vont prendre beaucoup plus de temps pour chercher une école parce qu'elles sont là pour longtemps. Et comme elles sont là pour longtemps aussi, elles s'ouvrent davantage d'options. Donc ça dépend beaucoup des types de familles. Et enfin, ça dépend de là où on est. C'est-à-dire que si jamais vous êtes dans un pays dont vous parler la langue et où le niveau d'études est bon, vous allez privilégier l'école locale. Et c'est le cas aux États-Unis très nettement, où il y a beaucoup plus de gens qui mettent leurs enfants à l'école locale et assez peu dans les systèmes français. Si vous parlez pas la langue ou si le niveau scolaire local est pas bon, dans ce cas-là, bien sûr, vous allez privilégier notamment le système français. Et ça va être le cas, par exemple, en Afrique.
Quoi qu'il en soit, les enfants qui arrivent devront s'adapter. Est-ce qu'il y a des cas de harcèlement scolaire à l'étranger?
Oui, il y en a. Il y a 20% des familles qui citent des cas de harcèlement, donc c'est assez important. Et ça, ça touche tous les systèmes. C'est très homogène. Il y en a autant à l'école internationale, ce qui nous a surpris parce qu'on sait qu'ils mettent beaucoup de choses en place pour éviter le harcèlement, mais il y en a quand même. Et il y en a pas plus à l'école locale. C'est essentiellement du harcèlement verbal. À l'école locale, ça va être plus souvent du harcèlement lié à la nationalité, parce que les enfants qui viennent d'ailleurs sont plus rares. Mais dans tous les cas, il y a assez peu de violence physique. Et la façon dont ce harcèlement est géré est assez homogène selon les systèmes, avec, pour le coup, une meilleure gestion dans les écoles internationales. Donc, si on reprend les écoles internationales, il n'y a pas moins de harcèlement, ou à peine, En revanche, il est mieux traité.
Comment les enfants s'adaptent-ils à leur nouvel établissement?
Oui, derrière la question du harcèlement, il y a la question du bien-être de l'enfant à l'école. Et là-dessus, on a vraiment des bonnes nouvelles. Les enfants s'adaptent globalement très bien à l'école. Entre les très bien et les bien, c'est 84% des enfants. Donc, globalement, c'est très satisfaisant. En revanche, il y en a quand même 20% qui ont besoin d'un soutien pour s'adapter. Alors, nous, on a pensé soutien en langue, remise à niveau, le français, etc. Et finalement, c'est pas ça le plus important. Les 20% d'enfants qui ont eu besoin de soutien pour leur intégration à l'école, c'est avant tout du soutien psychologique quand même.
Et cette adaptation, est-ce que vous avez constaté une variation en fonction de l'âge? Est-ce que les plus petits s'adaptent plus facilement que les plus grands?
J'ai envie de dire que c'est plus facile pour les plus jeunes et plus difficile pour les plus grands. En revanche, l'année dernière, on avait demandé aux parents quels étaient les bons âges pour les enfants pour s'expatrier. Et là, les parents étaient mais unanimes pour dire plus c'est jeune, plus c'est facile. Et c'est beaucoup plus difficile de s'expatrier avec des jeunes et encore plus des grands ados, ce qui est assez logique puisque l'adolescence, c'est se détacher de sa famille et que l'expatriation, ça vous renvoie dans votre famille.
Quand on parle des grands ados, ça nous ramène directement à l'orientation scolaire. On sait qu'en France, déjà, Parcoursup, c'est pas évident. Comment ça se passe à l'étranger?
Mais c'est compliqué à l'étranger parce que vous avez Parcoursup, le fameux dont les familles françaises disent que c'est une aventure. Et quand les parents, en septembre, on leur dit, alors, ton année, ça s'annonce bien, ils répondent, oh, ça va être dur, j'ai un Parcoursup. Donc vous imaginez quand vous êtes à l'étranger et que là, vos enfants vont être intéressés non seulement par des études en France, mais aussi ailleurs à l'étranger, qui veut dire qu'on va multiplier la complexité Parcoursup par le nombre de pays cibles. Et qu'en plus, selon les systèmes que vous avez choisis, des établissements sont plus ou moins outillés pour vous aider dans la découverte de Parcoursup. Par exemple, si vous êtes à l'école locale en Allemagne, c'est évident que ça va être très compliqué d'avoir du soutien sur Parcoursup. Mais même si vos enfants sont dans une école internationale et sont intéressés par les Pays-Bas, par exemple, une destination qui attire beaucoup les jeunes francophones, il n'est pas du tout évident que les écoles soient à la hauteur. Globalement, les parents sont quand même assez satisfaits. Et en revanche, le seul item sur lequel l'école locale décroche vraiment, par rapport aux écoles internationales qui sont vraiment les plus outillées pour accompagner les enfants dans le monde entier, et les lycées français qui tirent aussi pas mal leur épingle du jeu.
À l'étranger, les frais de scolarité sont assez élevés. Ceux qui partent dans le cadre de grands groupes, c'est l'employeur qui paye. Pour les autres, comment ça se passe? Qui paye, les parents ou les employeurs en majorité?
Si on regarde le tableau global, en grande majorité, à 67%, c'est les parents. Et quand on regarde après de façon plus fine, évidemment, ceux qui sont en contrat local se débrouillent tout seuls. Ou alors, éventuellement, la scolarité est gratuite, mais ça concerne que 7% de l'ensemble des parents expatriés. Vous voyez, c'est très peu, c'est pas du tout comme en France. Donc, les parents en local, c'est eux qui assument. Les parents qui sont expatriés, dans la plupart des cas, c'est l'entreprise. Et après, quand on regarde selon le type d'école, l'école française est payée dans 20% des cas par l'entreprise. Quand on regarde pour le système international, on monte à 30%, un peu plus de 30% des enfants dont la scolarité est payée par l'entreprise des parents. Et il y a une autre chose à laquelle on pense, nous, tout de suite en tant que Français, parce que c'est un sujet récurrent et souvent difficile à l'étranger, qui est celui des bourses. Et là, on a regardé qui pouvait percevoir des bourses. Et c'est très frappant, le système de bourses ne concerne que le système français. Il n'y a quasiment pas de bourse dans le système local, moins de 10%, 11% dans le système international et 46% des Français, enfin des gens qui ont scolarisé leurs enfants dans le système français, ont demandé des bourses et en ont bénéficié ou les ont demandées et n'en ont pas bénéficié. Mais donc le sujet des bourses, c'est un sujet très important dans l'enseignement français à l'étranger et c'est une de ses spécificités.
D'après votre étude, est-ce qu'on peut dire que les parents sont satisfaits de la scolarité de leurs enfants à l'étranger?
Oui, globalement, ils sont très satisfaits, puisque le niveau de satisfaction sur l'ensemble de la scolarité de leurs enfants est à 3,1 sur 4. C'est une bonne note. Ce qui nous a surpris, c'est qu'on pensait qu'il y aurait des grosses divergences entre l'école française, l'école internationale ou l'école locale, notamment parce qu'il y en a qui coûtent beaucoup plus cher que les autres. Donc, on s'est demandé si les parents étaient beaucoup plus satisfaits. Ça n'est pas le cas. Les résultats sont assez homogènes. On s'est demandé si les expatriés étaient plus exigeants que ceux qui sont en contrat local, et ça n'est pas le cas. En revanche, là où il y a des grandes différences, c'est selon la localisation. Et on voit que les parents sont beaucoup plus satisfaits dans les zones les plus développées, et que, par exemple, en Afrique, même à l'école internationale et même dans les lycées français, le niveau de satisfaction est beaucoup plus bas. La vraie différence, c'est la ville dans laquelle vous partez, presque plus que l'école que vous allez choisir.